Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les nouvelles censures d'Emmanuel Pierra. Existe-t-il une censure morale des interdictions légitimes? Peut-on réellement séparer l'artiste de son œuvre? Rendez-vous avec l'avocat essayiste à partir de 12h55 pour en discuter, exemple, nuance à l'appui. Mais d'abord, à l'amour comme à la guerre avec Cold War, un film choral pris de la mise en scène à Cannes cette année. Le nouveau film du réalisateur de Ida sort en salle demain. Pavel Pawlikowski filme la naissance du sentiment amoureux entre un pianiste et une jeune chanteuse dans la Pologne des années 50, puis les séparations et leurs retrouvailles, un couple dans la tourmente de la guerre froide. Invité jusqu'à 12h30, le cinéaste polonais évoque sa vision de l'amour, la place de la musique dans nos vies et de la situation en Pologne aujourd'hui. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Tournée dans un beau noir et blanc, une histoire d'amour contrariée dans la Pologne d'après-guerre. Victor est pianiste, chef d'orchestre. Il monte un chœur de musique populaire, part recruté dans les campagnes polonaises, tombe sous le charme, comme une évidence, d'une jeune chanteuse, de sa voix en or, de sa beauté, de son tempérament aussi, c'est Zula. Parfois, ensemble, plus souvent séparément, ils ne feront pas les mêmes choix, sauf celui de ne pas se perdre. Il fuit à l'ouest, elle ne le suit pas, ils se retrouveront plus tard, leur vie est faite d'aller-retours, d'un côté et de l'autre du rideau de fer, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème, en passant par Berlin. Bonjour Pavel Pawlikowski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cold War montre comment l'amour est dépendant de la raison d'État. L'amour a ses raisons que la raison d'État ne connaît pas. Au début des années 50, dans la Pologne stalinienne, la politique est partout. Elle formate aussi les cœurs, elle formate aussi les vies, en plus des esprits.
Elle formate pas, mais elle influence, c'est sûr. Je voulais faire voir la politique pas comme une chose principale dans le film, mais je voulais faire voir comment elle déforme les relations entre les gens, surtout politique totalitaire de cette époque. Mais dans le film, c'est pas seulement la politique, c'est aussi qui a une influence sur les sentiments, sur la relation. C'est aussi l'absence de l'un de l'autre, où on construit une image de l'un de l'autre dans l'absence. Il y a dans le film beaucoup d'obstacles extérieurs, mais aussi il y a d'obstacles intérieurs dans les deux personnages, parce qu'ils sont totalement mal assortis. C'est une relation impossible, et quand même, elle dure. Dans tout ce bordel et chaos, elle dure jusqu'à la fin. C'est ça le paradoxe du film. C'est ça qui fait que c'est un film d'amour, même si dans le parcours du film, on voit très peu de l'amour. Parce que c'est la bagarre plutôt que l'amour.
Oui, il y a aussi une forme de Cold War dans leur couple. Une sorte de guerre froide, le feu sous la glace entre Victor et Zula. La guerre est déclarée au premier regard, en même temps que la mécanique passionnelle va s'enclencher. Vous le dites, ils ne seront pas heureux ensemble, mais ils seront aussi malheureux séparés. Qu'est-ce qui les sépare, au fond?
Oui, des raisons objectives. Mais au début, quand ils se mettent ensemble, tout semble assez simple. Le problème est que dans ce système où ils vivent, dans cet ensemble musical, folklorique, c'est tout un champ de guerre déjà. C'est une lutte culturelle qui se passe dedans. Et l'État, cet ensemble folklorique, est pris comme un instrument par le ministère de la Culture pour représenter la musique populaire du peuple, au contraire de la musique décadente occidentale, du jazz, de musique atonale. Et il commence à influencer la vie de cet ensemble, ce qui ne dérange pas du tout Zula, qui est très heureuse dans cet ensemble. C'est le comble de ce qu'elle voulait. Elle vient du prolétariat, dans une petite ville, d'une famille alcoolique, difficile, et pour elle, cet ensemble, c'est génial. Il s'occupe de toi, tout va bien. Pour Victor, au contraire, qui vient de la bourgeoisie éduquée, intelligentsia, d'avant-guerre, il étouffe en Pologne. Alors il a une très bonne raison pour fuir
de partir.
La Pologne, pour partir. Mmh. Zula, beaucoup moins. Alors il y a un problème d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi rêvent-ils. Ils sont sur des pistes différentes.
Pour ce film, vous vous êtes inspiré de l'histoire de vos parents, 40 ans à s'aimer, mais leur relation aussi n'avait rien d'un long fleuve tranquille. Vous, vous êtes né, Pavel Pawlikowski, en 1957. De quel côté du rideau de fer, du coup?
Non, en Pologne. J'étais un peu le témoin de cette va-et-vient, de ces bagarres, de ces divorces.
Ça s'est passé comme ça? C'est votre père aussi qui est parti?
C'est pas littéralement ça.
Oui,
mon père est parti premier, oui. Il s'enfuit, mais il était divorcé à l'époque. Il s'enfuit, il a fini en l'Ouest, il a trouvé une autre femme. Ma mère est partie pour l'Angleterre, mon père pour l'Autriche au début. Ma mère a épousé un Anglais, il allait vivre en Angleterre, mais après ils se sont séparés de leur nouveau partenaires, mari et femme, et ils se sont mis ensemble de nouveau, à l'étranger déjà, en Allemagne, où ils ont vécu un peu en harmonie, mais ils se sont réussi à se bagarrer de nouveau, et se séparer de nouveau, et se remettre en ensemble de nouveau, etc. Jusqu'au moment où ils étaient trop fatigués pour se bagarrer. Et c'était une harmonie totale. Ils sont morts plus ou moins comme dans le film.
La même année, en 89.
89, juste avant la chute du mur, ironiquement. C'était... Ils n'ont pas vu la fin de la guerre froide.
Il n'y a pas que leurs origines dans le film qui sépare Zula et Victor. Elle est d'un milieu modeste. Lui, vous l'évoquiez plutôt de l'intelligentsia. Il y a aussi leur caractère. Elle est frondeuse, elle est rebelle. Elle décide de s'en sortir coûte que coûte, alors que lui est plus romantique, introverti, séduisant. Dans la vie, vous tenez plutôt de qui, vous, Pavel Pawlikowski?
J'imagine plutôt de lui, mais on a toujours des éléments de tous les personnages, mais dans ce film, tout le monde me dit, après voir le film, que le mec te ressemble, bizarrement.
Vraiment un air
voici,
de famille.
Voici, c'était pas mon intention, mais c'est comme ça.
Pour l'incarner, Zula, vous avez effectivement choisi la comédienne Johanna Kulig, fantastique, très très belle femme dans le film, mais femme aussi brisée par moments. Elle boit beaucoup, elle a tout le temps besoin de fuir quelque chose, de se dégager dès qu'elle commence à être liée. Est-ce que vous vous êtes inspirée de certaines figures du cinéma américain qu'on retrouve un tout petit peu quand même dans son regard ou dans son attitude? On pense à Lauren Bacall ou à Gina Rowlands, de femmes sous influence à Faces du cinéma de Cassavetes, bien sûr, qui a peut-être aussi été l'un des premiers à filmer l'amour impossible, la destruction à deux.
No hard feelings.
You're ace in line with me, Charlie. I dream of Jean in the light of our tears. Warm like a vapor on the sunset. Happy as
you know, you're a very strange man.
Well, you want me to leave, I'll leave.
You're not sensitive.
And another thing, you don't make me insecure. That's not one of my problems.
Good.
Pavel Pawlikowski, magnifique. Gina Roland dans Faces.
J'adore. J'adore, mais c'était pas exactement une inspiration. Il y a beaucoup de films que j'aime, comme celui-là. Mais c'était plutôt une chose imaginée, le personnage de Zula, un peu semblable à ma mère, il faut dire. Mais pendant l'écriture et le tournage, parce que je écris pendant que je tourne pas mal, je voulais que Johanna montre des visages différents. Oui, qu'elle commence assez simple, en survivor, une femme qui se débrouille. Et après, il y a un côté Lauren Bacall. En fait, je fais voir à Johanna des films avec Lauren Bacall pour donner l'idée un peu de cette tonalité, de cette bas voix et ce timing, comment livrer ces phrases. Après, les dégringolades à Paris, il n'y avait pas un modèle. C'était un peu logique du personnage que j'ai imaginé. Mais c'est vrai que dans tous les films que je tourne, il y a tout un sac à dos de films que j'ai vus pendant les 60 ans de ma vie. Alors je suis sûr qu'il résonne là, quelque part.
Dans Cold World, on voit comment la surveillance permanente finit par agir sur les têtes et les cœurs de vos personnages. En Pologne aussi, durant la guerre froide, on a le sentiment, et c'est peut-être le noir et blanc qui y contribue, que le temps est suspendu, à moins que ce ne soit la pendule qui ait tué le temps. Écoutez un extrait de Cold World, un échange à Paris entre Juliette, Jeanne Balibar et Zula, Johanna Kulig.
Bonsoir. Pardon, bonsoir. J'ai beaucoup pensé sur votre texte.
Ah oui, quel texte?
De ma chanson.
Ah, bah oui.
Le pendule a tué le temps. C'est joli, mais je ne comprends pas.
Ah bon? C'est une métaphore.
Pour dire quoi?
Que le temps ne compte pas quand on s'aime. Alors, ça vous plaît ici?
Paris? Ça va.
Ça a dû être un sacré choc, quand même. Hein?
Choc? Pourquoi choc?
Eh bien, les cinémas, les cafés, les restaurants, les magasins, d'après ce que je sais.
Non, entre nous, ma vie était mieux en Pologne.
Ah oui? Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes échappé?
Je n'ai pas échappé. Je m'en ai italien sorti légalement. Vous connaissez Palermo?
Non.
Dommage.
Le temps suspendu, et on entend dans cette scène aussi l'effet de ou l'impact de l'exil. L'exil les amoindrit, tous les deux d'ailleurs, Victor comme elle, comme Zula. On l'entend dans cet extrait où elle se sait, où elle se sent rabaissée hein, par le regard, la position un peu de surplomb de la poétesse parisienne qui par ailleurs a eu une aventure avec Victor, donc la jalousie se mêle à cela. C'est comme si elle pouvait plus lutter dans ce statut d'étrangère. Et puis pour lui aussi, peut-être, elle lui reproche d'avoir perdu sa virilité quand elle le rejoint à Paris. C'est aussi ça, l'exil, être déraciné, partir, c'est perdre aussi une part de soi-même pour vous, Pavel oui. Pavlikovski.
Oui, oui, tout à fait. On voit ça chez beaucoup de gens exilés, non, qui ne parlent pas la langue, si bien ils ne peuvent pas être drôles, ils sont un peu en retard avec la réaction, ils ne connaissent pas les règles du jeu. Ils réagissent à ça parfois comme Victor, en essayant de s'adapter mieux, d'être un peu plus conformiste. Ou comme Zula, avec arrogance, une attitude supérieure, où il se saoule et il se coupe de tous ses problèmes. Mais c'est toujours une chose qui change le caractère, aussi les relations dans le couple. Je me rappelle quand je suis venu visiter mon père, qui habitait à l'Allemagne à l'époque, la première fois que l'ai vu depuis 4 ans, on ne s'est pas vu. Après sa fuite de Pologne, et il m'a frappé comme un type beaucoup moins sûr de soi. En Pologne, il était très sûr, très courageux. Ici, en Allemagne, je voyais qu'il essaie d'être sympa, et qu'il essaie de s'adapter, d'être aimé. Ça m'a déçu quand j'ai vu ça. Il y a parfois des Polonais ou d'autres exilés qui, au contraire, disent « Mais tous les gens ici sont prétentieux, cons, on est mieux, on est plus sûr, on est plus authentique. » Allez vous faire
voir ailleurs.
Oui.
Pavel Pavlikovski, vous faites une fois encore de la musique un élément central du film, comme déjà dans Ida, la musique était importante avec Sœur Anna qui découvre le jazz en sortant du couvent. Dans Summer of Love aussi, l'une des deux adolescentes joue du violoncelle, vous jouez du piano, c'est le cas aussi de votre héros ici, de votre protagoniste Victor. Alors c'est vrai qu'on s'interroge aussi sur le rapport que vous avez, vous, à la musique, dans le cinéma mais aussi dans la vie. C'est le point de fuite, la musique?
Ah oui, c'est vrai, cette musique m'a toujours accompagné, et parce que j'ai vécu assez longtemps, j'ai un très large horizon de la musique. Alors je commençais avec rock and roll et la musique folklorique polonaise à l'époque, quand j'étais jeune, m'ennuyait, m'irritait. Après, j'ai découvert le jazz. Maintenant, j'ai redécouvert la musique des sources. Non, j'aime beaucoup de sortes de musique, et c'est toujours une chose qui, pour moi, ajoute au film toute une autre dimension. Ce que je n'aime pas beaucoup, c'est musique composée pour le film. Mais musique comme un élément dramatique dans le film, ça me donne de grandes possibilités. Et chaque fois quand j'écris quelque chose, des scènes, j'ajoute quelle musique pourrait être dans cette scène, pour me donner un peu de couleur de cette scène. Alors oui, c'est vrai.
Alors la musique, c'est la couleur dans un film en noir et blanc.
Oui, oui, ça ajoute la couleur, c'est vrai.
Il y a un peu de ça. Et vous choisissez des musiques comme le jazz, qui est important pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme les personnages du film, comme les hommes dans la vie, le jazz est une musique qui est faite aussi d'aller-retour.
Oui.
Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, 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 żebym chłopca nie kochała. Chaps za szyję, będę kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję.
Vous voyez, Pavel Pavlikovski, la ligne de fuite, c'est votre regard pendant cette chanson qu'on vient de diffuser. Il est parti très, 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 très loin, oui. Votre regard. Il est allé où?
Ça, dans cet espace du film, je me suis souvenu de comment on tournait cette scène. J'ai une certaine nostalgie pour ça.
Oui. Du jazz en polonais?
Oui, mais jazz en Pologne, c'était quelque chose. Il y avait une vraie explosion du jazz dans les années 50, deuxième partie des années 50, après le stalinisme. Mais maintenant encore, c'est une grande scène du jazz en Pologne. Mais dans ce film, cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est une chanson folklorique. Au début du film, on l'entend, une petite fille qui la chante avec fausse note. Après, ça devient la chanson orchestrée de cet ensemble folklorique. Et au fur et à mesure, elle change, elle devient la musique du jazz, chantée en polonais, après en français, avec le texte Jean Balibar, pour ainsi dire. Alors, il y a trois pièces de musique, en fait, dans le film, que j'utilise comme ça pendant tout le film. Cette chanson, on reconnaît tout le temps, mais il y a deux autres qu'on ne reconnaît pas beaucoup, mais ils travaillent subliminalement, sous-consciemment. Et c'est un film qui est assez fragmenté, parce qu'on saute dans le temps. Mais la musique et ces motifs qui retournent, c'est comme une colle qui tient tout ensemble. Et aussi, c'est un commentaire sur le rapport de notre héros, où ils sont, comment ils sont à ce moment, et où ils se trouvent.
Sur la musique folklorique, Pavel Pavlikovski, cette troupe fondée après-guerre dans le film, qui se produit encore des années après, elle a vraiment existé. Et c'est vrai qu'elle raconte avec elle, dans toutes ses tournées, elle transporte avec elle une musique des racines, une musique du patrimoine. Cette méthode de collectage, elle a été aussi pratiquée aux États-Unis, notamment dans les années 30, sous la houlette de l'ethnomusicologue Alan Lomax, cette musique traditionnelle et folklorique, qui a par la suite été subventionnée par l'État. Je vous propose d'écouter à ce propos Camille Morédu.
Il y a une rupture dans l'histoire du collectage qui est assez visible au moment de la Grande Dépression, qui est que les jeunes collecteurs de la génération d'Alan Lomax, donc ils n'étaient pas le seul, il y avait beaucoup d'autres personnes qui travaillaient aussi en collaboration avec la Bibliothèque du Congrès, développent une vision de la folk music comme quelque chose de vivant, de dynamique, qui peut être utilisé et réinjecté, qui doit être réinjecté dans la société moderne, pour pallier la trop grande influence de la culture de masse, notamment, et la culture de l'élite. Et donc le gouvernement aussi se saisit de cette pratique du collectage en faisant de la folk music une sorte de culture nationale officielle. Et donc à ce moment-là, le gouvernement subventionne de nombreuses campagnes de collecte à travers tout le pays, pas que dans le sud, mais aussi dans le nord-ouest, en Californie, pour enregistrer la voix du peuple. C'est aussi à ce moment-là qu'on a les premiers enregistrements de protest songs, puisqu'auparavant c'était considéré comme de la musique trop moderne, pas assez roots d'une certaine manière, et donc ils enregistrent en ville et ils enregistrent beaucoup de chants de protestation. Et c'est une rupture importante.
Alors on le voit à l'est dans votre film, la manière dont le régime récupère aussi ce chœur, cet ensemble, pour le faire chanter la gloire du leader et la cause du peuple. On entend aussi à l'ouest comment à un moment ce patrimoine, il a été aussi détourné, récupéré par les pouvoirs en place pour être valorisé.
Oui, mais c'était une arme contre la culture occidentale, décadente, jazz, etc., musique atonale. Il y avait une doctrine qui obligatoire à l'époque, dans l'époque stalinienne, c'était réalisme socialiste, non? Et la définition était que c'est quelque chose qui est dans sa forme du peuple, folklorique, mais dans son contenu socialiste. Mazurek, Mazovche, cet ensemble folklorique, c'est idéal pour ça. Si on prend la forme, les danses, l'énergie du peuple, et on change un peu les textes, on en introduit quelques textes qui ne sont pas portent pas sur l'amour et cœur brisé, mais sur la paix mondiale ou sur la réforme agraire ou sur les leaders. C'est une forme d'art idéal. Et ils ont beaucoup subventionné cette musique. Cet ensemble a commencé assez innocemment, mais très très vite il est devenu une arme du gouvernement. Et quand j'étais jeune, cette musique était partout. Cette musique... C'est pas folklore, c'est fakelore en anglais. C'est un peu fausse folklore. Et on détestait cette musique. C'était à la radio, à la télévision, on écoutait ces deux ensembles folkloriques, Schlansk, Mazovsche, et on voulait écouter Rolling Stones ou quelque chose qui nous parlait à nous. Mais après la chute du communisme, cette musique est un peu disparue. Les ensembles folkloriques existent encore, mais les gens s'intéressent pas, ils n'étaient pas, les ensembles n'étaient pas si bien subventionnés. Bizarrement, récemment, avec le nouvel gouvernement, il y a un nouvel enthousiasme pour cette musique de la part des politiciens. De nouveau, ils subventionnent, ils invitent les ensembles folkloriques aux fêtes de l'État, ou quand le président reçoit des invités, ou quand le nouvel avion de la ligne polonaise nationale est lancé, cet ensemble folklorique danse et chante. C'est devenu un peu comme une parodie de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Alors, la culture toujours fonctionne, est toujours un champ de bataille en Pologne. C'est encore le cas. Personne ne va pas en prison pour ça, ou personne n'est pas tué. Mais c'est un champ de bataille plus qu'avant, plus qu'il y a 10 ans.
Oui, peut-être la culture et l'histoire aussi. Vous avez vécu beaucoup entre la Pologne et Oxford aussi. Vous êtes revenu en Pologne depuis un peu moins de 10 ans.
Ouais. Oui,
6 ans. Comment vous regardez le climat actuel et surtout comment, est-ce que vous cherchez aussi d'une certaine manière avec vos films à éclairer par le passé ce qui se passe aujourd'hui de Ida à Cold War? Est-ce qu'il y a une envie de comprendre comment on en est arrivé là? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans nos pays, dans nos sociétés?
Vous savez, c'était pas mon intention, mais ça se passe comme ça. La réaction de la droite, surtout du gouvernement à présent, à Ida, c'était un choc, une découverte. C'était vraiment quelque chose qui a montré qu'est-ce qui se passe dans le pays. Mais c'est pas mon intention. Je m'intéresse vraiment à choses qui ont formé mes parents, moi, les gens que je connais. Mais le plus précisément on regarde ce qui s'est passé, le plus on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui retournent.
Et la mémoire, la Pologne est très travaillée par son passé.
Oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant en Pologne, c'est pour ça que je fais des films en Pologne, parce que tout est emprunté par l'histoire. Et les personnages, toutes les relations, j'aime raconter des histoires qui sont foncées dans l'histoire. Mais d'autre part, je n'aime pas quand l'histoire devient un récit l'unique récit correct. Non, c'est, je veux pas
dogmatique. Presque.
Dogmatique. Mmh. Et le problème avec notre obsession avec l'histoire en Pologne, c'est plutôt une obsession de raconter une histoire très simpliste. Qui nous fait aimer nous-mêmes plus, qui nous fait valoir. Et c'est pas un vrai désir de comprendre l'histoire, c'est plutôt un désir de raconter une histoire de nous-mêmes. D'autre part, c'est un pays très très intéressant. Il est marqué par l'histoire dans bon sens et dans mauvais sens. Mais je veux faire film en Pologne parce que pour moi c'est un territoire très riche parce que, à cause de ça, à cause de l'histoire.
C'est Christian Lupa, le metteur en scène polonais, qui passait nous voir il y a peu dans ses studios à l'occasion de sa mise en scène du procès de Kafka au théâtre de l'Odéon, qui revenait sur cette question de l'innocence et d'être coupable dans l'œuvre de Kafka et notamment dans le procès, et qui disait mais comment en fait un homme qui vit dans un monde empoisonné peut rester innocent. Et ça, c'est la question qui traverse aussi votre film, qui traverse Cold War et l'influence du temps et du monde qui nous environne, qui nous entoure sur la vie de chacun.
Tout à fait. Mais d'autre part, ce qui se passe pas seulement en Pologne, dans tout le monde, c'est une redécouverte de ce que ça veut dire démocratie. Parce que surtout en Pologne, on a eu la démocratie 29 ans, c'est pas très longtemps. Et c'est seulement maintenant que les gens commencent à... L'opposition à ce qui se passe, elle commence à comprendre comment fonctionne un État démocratique. C'est une leçon. J'espère que ça va finir bien, mais c'est une éducation.
Le prochain projet, il paraît qu'il y a du Limonov dans l'air.
Oui, peut-être. Je travaille. C'est très difficile parce que c'est un personnage très, très compliqué, très ambigu, très riche.
Dont le romancier français, Emmanuel Carrère, a fait un...
Emmanuel, oui, c'est beaucoup plus facile dans un livre de raconter en des mots. C'est beaucoup plus difficile pour moi de créer des scènes qui expriment ça sans expliquer des choses en paroles.
Et on se quitte en musique. Merci beaucoup, Pavel Pavlikovski. Votre film Cold War sort en salle en France mercredi. Merci.
Je ne rêve plus, j'oublie.